Couple d'aujourd'hui à l'école de Thérèse. Je voudrais vous montrer une seule chose ce matin. C'est que la joie chrétienne que peuvent connaître les couples chrétiens, les familles chrétiennes, s'enracine dans un certain nombre de vérités fondamentales de la bonne nouvelle que Thérèse a reçu grâce de vivre intensément et de comprendre énormément. On dit souvent que la joie chrétienne est un fruit de l'Esprit Saint. On a bien raison, puisque c'est saint Paul qui le dit, chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Mais ce fruit de l'Esprit Saint ne produit son effet dans nos cœurs que lorsque l'Esprit Saint fait retentir dans notre esprit et dans notre cœur des vérités de Jésus. La troisième personne de la Sainte Trinité ne chahute jamais la deuxième. Rappelez-vous l'évangile que nous avons entendu hier. Jésus n'a pas dit « Oubliez tout ce que je vous dis et l'Esprit Saint viendra mettre la joie dans votre cœur ». C'est l'erreur d'un certain nombre de chrétiens qui vont dans des églises demander la joie, mais qui oublient que l'Esprit Saint est là pour faire retentir dans notre cœur la bonne nouvelle apportée par Jésus. Et ce ne sont pas les membres du renouveau qui me contrediront, eux qui distribuent cassettes, livres et Bible, car ils savent très bien que l'Esprit Saint qu'ils aiment invoquer agit comme cela. Alors c'est vrai que Thérèse n'a pas inventé le Pérou, je dirais heureusement, elle n'aurait jamais été canonisée, encore moins déclarée docteur de l'Église si elle avait dit des choses trop nouvelles. Mais ce que j'admire de plus en plus en elle, c'est sa justesse théologique que nous allons vérifier en cours de route. Elle a le mérite, sans avoir fait d'études spéciales, elle n'a même jamais suivi un cours spécial d'écriture sainte, elle a pris tout l'Évangile. Le père Molinier a titré l'un de ses livres sur Thérèse « Je choisis tout ». Elle n'a pas réfléchi spécialement à la spiritualité du mariage, soyons honnêtes. On pourrait glaner ici ou là dans ses lettres à monsieur et madame Guérin ou à sa cousine quelques réflexions sur le mariage, mais non, je pense qu'on ira beaucoup plus vite en voyant à quel point sa petite voix et les autres aspects de sa pensée conviennent parfaitement à tous les couples chrétiens. Je l'ai vérifié effectivement en parlant aussi longtemps que j'ai été au service des équipes Notre-Dame sur le plan national et encore maintenant dans la mesure où j'anime pas mal de choses. Trois parties dans mon exposé et j'espère qu'il y aura quelques fioretti à la fin. L'esprit d'enfance pour les couples, la sainte humanité du Christ et les découvertes de Thérèse sur la charité fraternelle. Premièrement, l'esprit d'enfance. Vous savez que Thérèse, vers la fin de sa vie, quand elle a été obligée de parler à ses novices, a mis en place une petite voix. J'ai montré par ailleurs que c'est à Mère Marie de Sales Chapuis, une visitandine, qui était très admirée par Pauline, lorsqu'elle était en pension à la Visitation du Mans, elle a emprunté cette expression à Marie de Sales, Mère Marie de Sales Chapuis, morte en odeur de sainteté, et dont elle a lu, dont Thérèse avait lu la biographie. Seulement, elle va donner à cette expression une toute autre signification. C'est Mère Agnès, en 1907, 10 ans après la mort de Thérèse, qui a lancé l'expression « voix d'enfance spirituelle », que Thérèse n'a jamais employée, mais qui convient parfaitement à sa petite voix, étant donné qu'elle citait souvent à ses novices le célèbre passage de Jésus dans Matthieu chapitre 18, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Et elle aimait beaucoup une petite image qu'on lui avait donnée dans son enfance et qu'on lui a redonnée sans cesse par la suite, où Jésus accueille sur ses genoux des petits-enfants en disant à ses apôtres, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, on a critiqué cette expression « voix d'enfance ». Elle convient parfaitement et nous allons voir combien cela peut aider tous les couples chrétiens et même les autres. Rappelons d'abord qu'il faut éviter trois contresens importants pour l'éducation des enfants. Il ne faut confondre l'esprit d'enfance ni avec l'infantilisme, ni avec le fidéisme, ni avec l'innocence. Il n'y a pas de danger que Thérèse confonde l'esprit d'enfance avec l'infantilisme, puisque vous savez que pour elle, la grande grâce de sa vie, c'est Noël 1886, où elle a été libérée définitivement des langes de l'enfance. On a souvent souligné, à juste titre, je l'ai fait il y a bien longtemps en publiant ma thèse, l'accord merveilleux entre la grâce et la nature. C'est au moment précis où M. Martin prend conscience que sa petite reine, que sa petite Thérèse est devenue une grande fille de 14 ans, que la petite Thérèse va devenir une grande fille. Rappelez-vous les faits, on revient de la messe de minuit, et M. Martin, peut-être un peu fatigué par la cérémonie, dit un peu sèchement, en voyant les cadeaux préparés dans la cheminée, « J'espère bien que c'est la dernière année. Thérèse est suffisamment grande pour qu'on ne fasse plus des choses pareilles. » Thérèse, qui se trouve au premier étage, commence à pleurer, car elle ne supportait pas que son papa fronce les sourcils. Hein ? Thérèse a pleuré pendant des années. Quand elle n'avait pas la médaille qui récompensait à la fin du mois les élèves ayant régulièrement la moyenne en orthographe et en calcul, qui n'étaient pas ses matières fortes, c'était des pleurs à n'en plus finir. « Ma sœur, j'ai pas la médaille. Qu'est-ce qu'il va dire, papa ? Ma sœur, j'ai pas la médaille. J'ai pas la médaille. » « Mais Thérèse, vous ne pouvez pas la voir chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il va dire, papa ?» Imaginez entre autres la tête des institutrices quand elles ont appris qu'on allait canoniser cette mioche-là. On va canoniser toutes nos anciennes élèves. Bon. Donc Thérèse pleure plutôt, et sa sœur lui dit « Ne descends pas. Sous-entendu, tu vas encore nous gâcher la soirée avec tes pleurs. » Mais le déclic, la grâce se produit. Papa a raison. Je ne suis plus une gamine. Elle enlève son chapeau, son manteau, descend l'escalier et défait ses cadeaux comme si le papa n'avait rien dit. Thérèse n'est plus la même, pensent ses sœurs. Et non, le travail que je n'ai pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit en un instant, se contentant de ma bonne volonté. Il n'y a pas de danger que Thérèse confonde enfance et infantilisme. L'enfant Jésus de la crèche lui rappelle la grande grâce par laquelle elle est devenue une grande fille. Deuxième contresens que j'ai rencontré ici à Lisieux. Je pense à un prof de philo qui était venu en retraite à Lisieux et qui s'imaginait que pour avoir l'esprit d'enfance, elle devait abandonner toutes ses questions. Il faudrait aller au bon Dieu comme les gosses, avec son cœur et non pas avec sa tête. Erreur totale sur l'Évangile et sur Thérèse. Jésus n'a jamais dit de mettre notre intelligence au vestiaire. Il suffit de dire l'Évangile. Jésus multiplie les signes pour montrer qui il est. Il est le Verbe par qui tout a été créé. Il sait très bien que nos esprits, en grandissant, deviennent critiques et qu'ils ont besoin de signes, de preuves. Et il en fait. Quant à Thérèse, c'est une tête chercheuse. Conrad de Mester, qui connaît bien Thérèse et Élisabeth, vous dirait qu'elle est beaucoup plus tête chercheuse qu'Élisabeth de la Trinité. Et c'est pour ça qu'on en a fait un docteur de l'Église. Parce que sous un langage très simple, elle se pose beaucoup de questions. L'un des verbes qu'elle emploie le plus, c'est le verbe « comprendre ». Les grandes grâces que reçoit Thérèse sont des grâces de lumière. Le bon Dieu m'a fait comprendre. Et c'est ce qu'elle essaye de nous faire comprendre. Donc, c'est absolument... D'ailleurs, on pourrait signaler que les enfants cherchent à comprendre. Mes amis savent que j'ai commencé à faire des conférences en élargissant pour un grand public les petites causeries que je faisais aux instituteurs et parents de CM2 qui cherchaient à mieux enseigner la catéchèse. Les CM2 et les 6e, c'est l'âge théologique par excellence. Bon. Mon guide des difficultés de la foi catholique sont des questions de CM2, les mêmes questions que les polytechniciens. Comme me disait un jour quelqu'un, c'est pas gentil pour les CM2. Bon. Troisième contresens, confondre Thérèse et Victor Hugo. Esprit d'enfance et innocence. C'est le danger de ces beaux posters où l'on présente le visage de Thérèse à 8 ans avec comme légende « Soyez saint comme il est saint ». Et certaines personnes s'imaginent que la sainteté, c'est devenir innocent comme un enfant. Auquel cas, je ne pourrais pas aller dans une prison présenter des diapositives sur Sainte Thérèse. Je ne vais pas dire à des prisonniers de droit commun qui ont du sang sur les mains « Redevenez innocent ». un mot que Thérèse n'emploie jamais, sauf dans un autre sens que nous verrons tout à l'heure. Non, Thérèse sait trop qu'elle est pécheresse pour confondre enfance et innocence. Nous le verrons tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose que l'on peut dire en une minute ou deux minutes et quelque chose qui demande plus de temps. Ça veut dire d'abord que la sainteté est compatible avec une vie ordinaire, avec la vie que connaissent la plupart des couples que je rencontre. Une vie sans extase, sans activité exceptionnelle. Si vous prenez les saints et les saintes du calendrier, ils ont presque tous fait des choses exceptionnelles. Saint François d'Assise, Saint François Xavier, le curé d'Ars, le père Damien, Don Bosco, Mère Teresa de Calcutta, quand elle sera canonisée. On peut raconter des choses sur ces saints. Que peut-on dire sur Thérèse? Quand j'emmène des jeunes ici à Lisieux, ils me disent « Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une telle gloire ?»« Oh, elle a fait des choses difficiles. Elle a balayé les cloîtres, elle a fait de la lessive, du repassage. Le linge repassé, elle l'a mis dans les armoires. Il faut savoir viser pour faire des choses pareilles. Seconde à la lingerie, seconde à la porterie, seconde au noviciat, seconde à la sacristie, l'éternel poulidor de la communauté. » Elle n'a rien fait. Ce n'est pas elle qui restait le plus longtemps à la chapelle. Celle qui faisait des marathons devant le tabernacle du Carmel, c'était Sœur Saint-Vincent de Paul. Elle consacrait tous ses temps libres à se prosterner devant le tabernacle. Mais comme la piété n'engendre pas forcément la charité, c'est elle qui avait surnommé Thérèse la grande biquette. Elle est rentrée au les guides de Lisieux, vous voyez, ils essayent d'attirer l'attention des touristes avec des choses exceptionnelles. Elle est entrée au Carmel à 15 ans. Tu parles, ce n'était pas du tout exceptionnel à l'époque. Mère Saint-Placide, la directrice des écoles à l'abbaye bénédictine de Lisieux, était entrée au couvent à l'âge de 15 ans. Et j'ai trouvé dans les archives de Lisieux les traces d'une Georgette Gréville qui, après Thérèse, est entrée au Carmel de Lisieux à l'âge de 13 ans et demi. Et qui est morte prieure du Carmel de Saïgon. On pouvait très facilement entrer à 16 ans. Elle demandait une dispense de quelques mois. Il n'y a rien. Non, on essaye de trouver le petit quelque chose. Non, il n'y a rien. Mais c'est intéressant. Ça nous rappelle que la sainteté, justement, et c'est très important de le rappeler à tous ceux qui sont tentés de jalousie, hein? Par exemple, si quelqu'un est en train de jalouser un prédicateur qui a le micro en ce moment, il est bête. Parce que ça ne me donne rien de plus. Rien. C'est pas ça qui compte. Thérèse nous rappelle avec éloquence ce que nous entendons une fois sur deux ou sur trois dans les messes de mariage. Ce qui compte, dit saint Paul, c'est l'amour. J'ai beau parler les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Donc, esprit d'enfance, une vie ordinaire. Je ne vais certainement pas mourir en une fête de la Sainte Vierge. Non, toutes les petites âmes ne pourraient pas imiter cela. Laissons ça au père Kolbe, qui est mort magnifiquement le 14 août 1941 dans son bunker d'Auschwitz.